Restez toujours au rythme du Niger sur Studio Kalangou. Les programmes continuent avec l'édition de 18h. Nous sommes mardi 12 janvier 2021. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la présentation, c'est Rukaï Abdrahman. Au sommaire, l'opposition nigérienne réunie au sein de la coalition CAP 2021 demande l'annulation du scrutin de décembre dernier dans certaines localités du pays. Sur les 337 cas atteints de méningite enregistrés à Miria, région de Zender, entre mi-décembre et début janvier 2021, seuls 7 patients sont sous traitement. De la rubrique de chaque mardi consacrée au bien-être de la femme, en partie magazine de cette édition, on parlera de violences sexistes et des voies de recours pour les combattre. L'opposition nigérienne réunie au sein de la coalition pour l'alternance politique du Niger CAP 2021 et ses alliés exigent l'annulation des résultats des différents scrutins de décembre 2020 dans plusieurs localités du Niger et la reprise de ces élections dans ces zones sous la surveillance de l'armée. Les leaders de cette coalition l'ont fait savoir hier à travers une déclaration de presse rendue publique au palais du 29 juillet de Niamey. On écoute un extrait de cette déclaration lu par Amadou Boubacar Cissé, des propos recueillis par Michel Déji.
Exigeons-nous que les résultats de certaines communes de la région de Tawa et des zones Nord Maradi, Nord Zender et Difa soient simplement annulés et repris sous la surveillance de l'armée. De même, doivent être annulés les résultats de toutes les zones où les armes à feu ont été utilisées pour fabriquer et imposer de faux résultats. Doivent également être annulés les résultats de toutes les localités où des chefs de village ont été embrigadés pour imposer aux électeurs le vote au profit des candidats du PNDS Taraya à la présidentielle comme aux législatives, notamment dans les régions de Magaria, Matame, etc. Malgré toutes ces infractions graves, délibérément portées aux lois et règlements de la République, l'opposition politique n'attend rien de la Cour constitutionnelle qui a perdu toute crédibilité en violant les dispositions de l'article 47 de notre loi fondamentale. L'opposition entend imposer l'alternance par une mobilisation sans précédent des Nigériens soucieux du devenir du pays et de son salut.
L'Alliance des candidats pour le changement ACC, c'est le nom de la nouvelle coalition créée hier par 10 candidats à la présidentielle du 27 décembre dernier au Niger. Cette nouvelle alliance, dont les résultats électoraux totalisent 8,97% des voix du premier tour, se propose d'apporter son soutien lors du deuxième tour de l'élection présidentielle prévue le 21 février prochain à un des deux candidats en tenant compte de la qualité de son programme de gouvernance, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Au Niger, par 2 décrets présidentiels signés hier par le président de la République, 5 représentants des partis politiques de l'opposition et 22 représentants des candidats à l'élection présidentielle 2020-2021 sont nommés membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces nominations comblent ainsi le vide laissé par l'opposition au sein de l'institution électorale. 7 patients, c'est le nombre de malades atteints de méningite à la date du lundi 11 janvier 2021 sur les 317 cas enregistrés au niveau de Dinaï et Geza dans le district sanitaire de Miria, région de Zender. Le déclin de cette maladie intervient grâce à la forte mobilisation de la population et à l'important dispositif de prise en charge mis en place par le district sanitaire. Madame Abou Lawali Shekarou Fatima Zara, médecin-chef de ce district sanitaire, explique au micro de Mustapha Mamansani.
À la date du 10 janvier 2021, nous sommes à un total de 377, dont 151 cas à Guézamama et 226 cas à Diné. Nous avons malheureusement déploré 12 décès, 9 au niveau de Guézamama et 3 au niveau de Diné. Nous avons également eu à évacuer d'autres patients dont l'état de santé s'est bien amélioré. Depuis lors jusqu'à la date d'hier, nous avons fait sortir 356 patients guéris. Nous avons 7 patients sous traitement, 6 à Guéza, 1 à Diné. Actuellement, les vaccinateurs sont sur le terrain. Pour qui connaît la méningite, il sait que la souche C est une des plus meurtrières. Nous avons pu arrêter ces différents décès et même nous avons pu effectivement avoir de moins en moins de malades. On a enregistré beaucoup de décès parce que malheureusement la population s'est adonnée à l'automédication ou à la consultation des charlatans.
La communauté des religions endogènes du Bénin a célébré dimanche dernier la fête du Vaudou. Cette année, la célébration intervient dans le contexte de la pandémie du Covid-19, chose qui a eu un impact sur les cérémonies de cette année, comme l'indique Dr Raymond Asokba, membre de religion endogène du Bénin et professeur de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il est joint au téléphone par Fadel Alou.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la célébration cette année-ci. Vous savez qu'il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais surtout on impose les gestes barrières. Alors que lorsque le vaudou se manifeste, les populations sortent. Et il faut dire qu'officiellement, l'Association des religions endogènes a fait sortir un communiqué pour demander à chaque hounon ou responsable d'un vaudou de célébrer le 10 janvier strictement dans les limites territoriales de chaque vaudou et sans jouer le tam-tam qui appelle tout le monde et tout en respectant les gestes barrières. Et d'habitude, ces activités, c'est l'accomplissement des rituels de revitalisation de chaque vaudou. Il y a aussi la danse, la musique, il y a les chants. C'est l'accomplissement aussi des rituels et puis maintenant la sociabilité.
La situation sécuritaire reste préoccupante dans la région de Tillabéri. En dépit de l'état d'urgence instauré dans la zone, des individus armés continuent à circuler à moto et à commettre des attaques. Daoud Moukaïla, ressortissant de la commune d'Anzourou et membre du comité Union Tillabéri qui lutte contre l'insécurité dans cette région, nous livre son point de vue sur la situation. Il est joint au téléphone par Talata Abdoubahar.
Non seulement les bandits viennent de réclamer des impôts, et cela ne suffisait pas, ils viennent carrément prendre les animaux, que ce soit les grands bétails et le petit bétail. La population étant terrorisée ne peuvent rien faire parce qu'ils sont désarmés, ils n'ont rien que Dieu pour les sauver. L'armée a deux problèmes sur le terrain. Par exemple, il ne peut pas identifier si c'est un bandit ou c'est pas un bandit. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'armée ne connaissait pas le terrain. Bon, nous, on préconise deux solutions. Soit associer les jeunes de la région là à être dans l'armée, par exemple, pour mieux maîtriser la zone. Deuxièmement, l'armée doit avoir des guides locaux. Troisièmement, ils doivent être en permanence sur le lieu. D'abord, pour la population de ne pas quitter leur zone. Troisièmement, à la communauté internationale, de venir voir la souffrance, vraiment de venir voir la souffrance que vit cette population-là.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier lundi à Paris qu'une enveloppe de 14,3 milliards de dollars sur 5 ans 2021-2025 a été constitué pour la Grande Muraille Verte destinée à prévenir l'avancée du désert dans la zone soudano-sahélienne qui traverse 11 pays en Afrique. Cette annonce faite en marge des travaux de la 4e édition du One Planet Summit suscite un ouf de soulagement, explique le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au Niger, colonel Maïcharou Abdou, au micro de Mokhtar Hamadou.
C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé depuis la fin de l'année passée. Parce qu'on avait en fait une idée sur ce que serait l'engagement international au niveau de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Le 7 septembre passé, il y a eu un rapport global également de la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte. On parlait de 8-10% d'acquis par rapport à l'ensemble de l'objectif qui a été fait. C'est pour cela que la communauté internationale vraiment s'est engagée à l'issue de ce One Planet Summit que vraiment cet engagement-là devrait être renouvelé pour vraiment au moins en termes financiers à la hauteur de l'objectif de l'initiative Grande Muraille Verte. Hier, l'annonce était de 14,3 milliards de dollars pour appuyer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. C'est un engagement très fort. Il y a eu des efforts même antérieurs. Ces efforts-là étaient venus de façon disparate. Il faut vraiment s'activer pour mobiliser ce qui a été dit là. Les 14,3 milliards de dollars là, qu'on arrive à les concrétiser d'ici 2025.
Le Niger a été sans pitié contre les écureuils du Bénin hier lundi à Lomé lors de la troisième journée du groupe A du tournoi qualificatif IFOA BU17. Les hommes du coach Frédéric Acosta François ont battu leur homologue du Bénin sur un score 3-0. À l'issue donc de cette troisième journée, le Niger totalise 4 points et rejoint le Burkina Faso au second tour. Le Bénin avec 0 point est éliminé avec le Togo disqualifié pour un problème d'âge. Les âges des deux joueurs togolais ne sont pas conformes au règlement du tournoi. Le Niger affrontera le Nigeria le samedi 15 janvier 2021. Hé ma copine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein?
Ah ma chère Aminata, avec cette nouvelle maladie, on est obligé de limiter nos sorties et fréquentations.
Bon, tu as raison, hein. Mais tiens, j'ai appris que notre voisin l'a dit, le commerçant, il est sorti de l'hôpital et totalement guéri de la COVID-19. On devrait penser à faire un tour chez lui pour lui faire barca, n'est-ce pas?
Quoi? Moi, aller dans cette famille de COVID-19 pour faire barca? Non, je suis désolée, je ne suis pas partante.
Mais non, Ramot, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'entends parler? C'est très grave ce que tu dis là. Peux-tu imaginer un instant toute la tristesse, la peur qu'il a pu vivre lors de son traitement? Isolé de tous ses proches, ses parents, ses amis et connaissances, mets-toi un instant à sa place. Comment te sentirais-tu, toi, si tout le monde t'abandonne? Comment te sentirais-tu si moi, ton ami, je t'abandonne? Hein? Peux-tu imaginer? À ce moment, Ladj a plus que jamais besoin de notre soutien, de notre compassion.
Aminata, je m'excuse beaucoup de mes propos déplacés. Merci de m'avoir amené à la raison. Je crois que nous devons envisager une visite chez lui ou simplement l'appeler pour au moins prendre de ses nouvelles et lui montrer notre soutien.
Non, ne t'en fais pas ma chérie. Tu sais, je te comprends. Ta réaction est certainement due à la peur. Continuons juste de sensibiliser les gens autour de nous, apporter notre soutien aux personnes atteintes de la COVID-19 tout en respectant bien sûr les gestes barrières, notamment le port des masques, le respect de la distanciation sociale, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition, la violence sexiste à court dans nos sociétés au Niger. Quelles sont ses formes, ses conséquences, comment la combattre, quelles sont les mesures légales prises par l'État pour la prévenir. De notre magazine d'aujourd'hui, le magistrat Abacha Abdelkader, juge des mineurs du tribunal de grande instance de Zender, nous fait découvrir cette violence ainsi que les voies de recours pour lutter contre celle-ci. Il est au micro de notre correspondant Mustapha Mamansani.
Sexiste signifie une attitude discriminatoire fondée sur le sexe ou par extension sur le genre. Quand on parle de violence sexiste, donc c'est toute action physique ou psychologique accomplie pour obliger ou contraindre quelqu'un à faire ou à ne pas faire quelque chose ou à subir une infraction. C'est ce qu'on appelle dans le jargon courant au Niger VBG, violence basée sur le genre.
Quels sont les types de violences sexistes?
Les violences sexistes sont principalement les atteintes aux mœurs, dans lesquels on peut classer le viol, l'attentat à la pudeur, le harcèlement sexuel dans les rapports entre employeurs et employés. La loi sur la cybercriminalité aussi a énuméré un nombre d'actes qui peuvent être commis sur des enfants. On parle de l'exploitation de la pornographie des enfants, des mineurs.
Quelles sont les conséquences de la violence sexiste?
Elles sont l'ordre psychologique, l'ordre physique et l'ordre social. L'ordre physique, prenons une fille ou une femme qui a été violée. Si c'était une femme vierge, elle aura certainement perdu sa virginité. Et elle peut contracter des maladies sexuellement transmissibles. Elle peut tomber enceinte. C'est une grossesse non désirée qui aura des conséquences sur elle, sociales. Pour les conséquences, comme j'ai parlé, des enfants naturels qui eux-mêmes sont stigmatisés.
Monsieur le juge, comment aujourd'hui prévenir les violences sexistes?
Les moyens de prévention sont avant tout la sensibilisation. Et surtout vous, les médias. Depuis longtemps, on a su que la femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Donc il faudrait qu'elle soit traitée de la même pied d'égalité que les hommes. Ensuite, c'est les sanctions. Il faut dénoncer. Les autorités judiciaires doivent poursuivre et il doit y avoir des sanctions qui sont pénales. Et on doit dédommager les victimes et leurs parents et aussi administratives si c'est un administrateur.
Alors, quelles sont aujourd'hui les mesures légales prises par l'État pour prévenir la violence sexiste?
C'est principalement les poursuites judiciaires et ou pénales. Mais pour avoir les poursuites judiciaires, il faut dénonciation. Donc, quand c'est su, il faut poursuivre les gens, les juger, les condamner à la peine qu'ils méritent.
Quelles sont les voies pour dénoncer et avoir accès à la justice? justice en cas de violence sexiste.
C'est les dénonciations auprès des autorités policières. Par autorité policière, il faut entendre la police en tant que telle, la gendarmerie et même la garde nationale, ou à défaut saisir les associations des droits de l'homme, de la femme et des enfants, ou bien venir directement au niveau du tribunal dénoncer les faits au procureur qui est le chef de l'enquête. Et s'il y a des charges suffisantes, il va investiguer davantage peut-être à travers l'information et aboutir à un jugement et une condamnation.
C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir.
Studio Kalangu à Gaya sur la radio Phara 90.3 MHz. À Tessawa sur la radio Termamoa 97.5 MHz. À Birni-Koni sur la radio Nia 97.5 MHz. À Belleyara sur la radio Dalol 96 MHz. Studio Kalangu.